J'ai une très bonne question pour vous. Qui est l'auteur du message de l'Évangile? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui mettra fin à toute discussion à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je regarde les sujets qu'on va aborder au cours de cette émission et je suis persuadée que vous allez tous aimer l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. Alors voici les questions qu'on va poser au grand livre de Dieu. Qui est l'auteur du message de l'Évangile? Qui est-ce qui ouvre nos cœurs pour qu'on comprenne le message de l'Évangile? Qu'est-ce que le croyant doit faire pour attirer les gens au Seigneur Jésus? Quand le croyant prêche la personne de Jésus-Christ, doit-il aussi prêcher contre les autres? Est-ce qu'on peut dissocier la foi en Jésus-Christ et la repentance? Est-il possible de servir Dieu sans l'aimer? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly les a toutes puisées dans la Bible, la parole de Dieu. Mais premièrement, demandons au Seigneur qu'il dispose nos cœurs à entendre et à pratiquer le merveilleux message de l'Évangile. Prions. Oh oui, Seigneur, on te demande de disposer nos cœurs, afin qu'on réalise que c'est bien toi qui parles à nos cœurs. C'est toi qui veux nous inciter à pratiquer ce beau message de l'Évangile. Alors aide-nous à chaque jour à le mettre en pratique, à retenir ce que tu nous enseignes. Et parle-nous, Seigneur, on veut entendre ta voix. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons traité d'un sujet souvent controversé, soit l'élection. Cependant, nous vous avons rappelé que nous traitons de la solution de Dieu au péché de l'humanité et que nous devons aborder ce sujet avec révérence. Dieu ne nous a pas révélé cette doctrine afin que nous en fassions un sujet de discussion houleuse. Acceptons simplement la révélation de Dieu telle qu'il nous la présente. Nous vous avons aussi rappelé que Dieu est le Créateur de l'univers, et en tant que Créateur, l'univers lui appartient. Il a donc le droit de régner sur son univers, et c'est ce qu'il fait. Cependant, Dieu n'est pas un tyran, mais il est un Dieu juste et saint. Il ne sauve pas qui que ce soit contre son gré, et il ne rejette pas ceux qui veulent venir à lui. Nous passerons l'éternité là où nous l'aurons désiré. Nous avons expliqué que la Bible, qui est la parole de Dieu, est un instrument entre les mains du Saint-Esprit. Cette parole a une puissance transformatrice parce que l'Esprit l'utilise. Il est donc nécessaire de prêcher toute la parole. La vie chrétienne peut être à la fois douce et amère. Le chrétien, comme tous les êtres humains, souffre d'une façon ou d'une autre. Le chrétien n'échappe pas à la souffrance qui est le lot de tous les êtres humains sur cette planète. Cependant, celui-ci, du fait de sa relation personnelle avec Dieu, peut éprouver une joie même lorsqu'il est dans la souffrance. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. L'Évangile est d'origine divine, notre Évangile. En utilisant cette expression, l'apôtre Paul ne dit pas que ses compagnons d'œuvre ainsi que lui-même sont les auteurs du message qu'ils annoncent. Il n'affirme pas être le sujet du message. En fait, leur Évangile ne proclame nul autre que Christ crucifié. L'Évangile leur a été confié afin qu'ils le proclament. L'apôtre Paul et ses compagnons d'œuvre, Sylvain et Timothée, ne sont pas la source de cet Évangile. Ils ne l'ont pas inventé. L'Évangile est d'origine divine et c'est Dieu qui leur a confié la proclamation parmi les nations païennes. L'Esprit agit avec puissance dans les cœurs, avec puissance. À la dernière émission, nous avons parlé de la puissance transformatrice du message de l'Évangile. Cette puissance provient du fait que la parole de Dieu est un instrument entre les mains du Saint-Esprit qui s'en sert pour transformer des vies. Dans ce cas-ci, la puissance mentionnée pourrait aussi comprendre des miracles. Dieu appuyait le message des apôtres avec des miracles. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4. Avec une pleine persuasion. Ce sont les chrétiens de Thessalonique qui ont été entièrement persuadés du message de l'Évangile. En effet, l'Esprit a agi avec puissance dans leur cœur. Si l'apôtre Paul et ses compagnons parlaient avec autorité et assurance, c'est tout de même l'Esprit qui a ouvert le cœur et l'Esprit des Thessaloniciens qui ont cru. Jésus a promis d'envoyer l'Esprit qu'il a appelé le Consolateur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Revenons à la lettre de Paul adressée aux Thessaloniciens. Lisons chapitre 1, verset 6 de cette première lettre. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. » Projetez-vous l'image du Seigneur Jésus? Les Thessaloniciens n'avaient pas l'Écriture à leur disposition comme nous l'avons aujourd'hui. Ils ont premièrement observé la façon de vivre des messagers. Ceux-ci imitaient le Seigneur Jésus. Les Thessaloniciens les ont imités et par ce fait, ils ont aussi imité le Seigneur Jésus après l'avoir connu. Permettez que je vous pose une question. Si quelqu'un vous imitait, ou vous prenez comme modèle, par ce fait même, Jésus-Christ serait-il aussi son modèle? Projetez-vous l'image du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus enseignée dans les écoles et les gens ne fréquentent plus l'Église. De nombreuses personnes ne croient pas que la Bible soit la parole de Dieu et ne l'ont jamais lue. C'est pourquoi j'aime vous rappeler que la première Bible que les gens vont lire, c'est votre manière de vivre, c'est votre conduite. Je connais un couple qui témoignait beaucoup et des gens s'intéressaient à l'Évangile. Cependant, lorsqu'ils voyaient ce couple vivre, ils cessaient de s'y intéresser. En effet, les paroles du couple et leur manière d'agir donnaient un message contradictoire. Par contre, un membre de notre équipe a été attiré au Seigneur Jésus par la manière de vivre des chrétiens qu'il a rencontrés alors qu'il était aux études. Le fait que des Thessaloniciens aient pris position pour le Seigneur Jésus, malgré la persécution et les afflictions que cela leur a attirées, démontre encore la puissance de l'Esprit. De plus, dans leur affliction, ils ont connu la joie que procure le Saint-Esprit et une relation personnelle avec Dieu. Verset 7 du chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Après seulement quelques mois d'existence, l'église de Thessalonique était un exemple pour toutes les autres églises. Cela était un témoignage merveilleux et glorieux. Votre église est-elle un modèle? Aujourd'hui, nous rencontrons souvent ou nous entendons parler de chrétiens qui sont un exemple aux autres. Ces chrétiens ou chrétiennes ne sont pas nécessairement célèbres à cause de leur fonction dans l'Église ou dans une organisation chrétienne. Ils ne sont pas nécessairement sous les projecteurs, mais quotidiennement, ils fonctionnent selon les principes bibliques parce qu'ils aiment Dieu. Cependant, les églises qui sont un exemple sont très rares. Plusieurs se sont refroidis et ont perdu leur vision missionnaire. La majorité de leurs membres est formée de chrétiens tièdes, de bien-pensants qui se pensent justes parce qu'ils ont été élevés dans des églises chrétiennes. Verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. La réputation de l'église de Thessalonique s'était répandue, et lorsque l'apôtre Paul visitait une ville, les gens avaient déjà entendu parler des chrétiens de Thessalonique. Paul n'avait pas besoin d'en parler. Ceci démontre l'excellente réputation de l'église à cette époque. Qu'en est-il de votre église? A-t-elle un zèle pour évangéliser? Entendons parler de son amour pour les âmes perdues et de son zèle pour proclamer l'Évangile. La population perçoit-elle que Dieu transforme la vie de ses membres? Versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous avons déjà examiné ces deux versets en étudiant le verset 3. La réaction des Thessaloniciens au message de l'Évangile démontre quel accès Paul, Sylvain et Timothée ont eu auprès d'eux. Voici de nouveau leur réaction. Premièrement, l'œuvre de la foi, se convertir à Dieu en abandonnant les idoles. Deuxièmement, le travail de l'amour, servir le Dieu vivant et vrai. Troisièmement, la fermeté de l'espérance, attendre le retour du Fils qui est dans les cieux. Chers amis, prêchons la personne de Jésus-Christ plutôt que de prêcher contre les autres. Aujourd'hui, j'aimerais de nouveau examiner ces versets, mais sous un angle différent. Lorsque Paul est arrivé à Thessalonique, il n'a pas annoncé qu'il donnerait une série de messages dénonçant l'idolâtrie ou exposant les erreurs du culte rendu à Apollo, Vénus ou tout autre dieu romain. Paul a plutôt prêché au sujet de la personne du Seigneur Jésus et de son œuvre. Lorsqu'il a fait cela, les gens se sont convertis à Dieu et se sont détournés des idoles. Notez que le texte ne dit pas qu'ils se sont détournés des idoles pour ensuite aller vers Dieu. Quelqu'un veut peut-être m'accuser de couper les cheveux en quatre. C'est peut-être vrai. Cependant, il est nécessaire de faire cette nuance. Il faut bien examiner ce que sont la repentance et la conversion. La foi et la repentance sont indissociables. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Aujourd'hui, nous enseignons que la repentance est une étape essentielle de notre salut. La repentance et la foi sont présentées comme deux étapes du processus. En fait, ce sont deux éléments indissociables, et nous les voyons ensemble dans ce verset. L'apôtre Paul a prêché au sujet de Jésus-Christ, et les gens se sont convertis à Dieu et se sont détournés des idoles. Je désire que vous notiez un détail très important. Lorsqu'ils se sont convertis à Dieu, ils ont accompli l'œuvre de la foi. Leur conversion est le résultat de leur foi. Le Seigneur Jésus a dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 29. Ces gens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Ils ont fait les deux simultanément. C'est cela, la repentance. La repentance a suivi la conversion à Dieu. Elle ne l'a pas précédée. Lorsqu'ils se sont convertis à Dieu, ils ont automatiquement abandonné les idoles. Tenez votre main devant votre visage de façon à en voir la paume. Maintenant, tournez votre main afin de voir le dessus de celle-ci. Lorsque vous avez fait cela, la paume de votre main s'est automatiquement détournée de vous, mes amis. Vous ne pouvez pas vous tourner vers le Seigneur Jésus sans vous détourner de quelque chose. C'est cela la repentance. C'est se détourner de la chose sur laquelle vous vous appuyez. La repentance sans la foi est inutile. Nous avons besoin de présenter Jésus-Christ comme étant celui qui nous sauve du péché. Une personne a besoin de voir qu'elle est pécheresse et perdue. Un pécheur peut pleurer à cause de son péché toute sa vie, mais cela est entièrement inutile. Je connais un alcoolique qui l'est demeuré jusqu'à sa mort. Il venait me voir et il pleurait à cause de son péché et parce qu'il menait une vie misérable à cause de sa dépendance de l'alcool. Il pouvait pleurer et se repentir, mais cela n'a jamais rien changé parce qu'il n'est jamais venu à Jésus-Christ. Le père de J. Vernon McGee aimait lui parler d'un petit bateau à vapeur qui faisait la navette entre des villes sur le Mississippi. Ce bateau avait une petite chaudière, mais un très gros sifflet actionné par la vapeur de la chaudière. Lorsque ce bateau remontait le courant avec une cargaison lourde, il se mettait à reculer chaque fois que le sifflet était actionné. Lorsque le gros sifflet utilisait la vapeur de la chaudière, le moteur n'avait plus la puissance nécessaire pour remonter le courant. De nombreuses personnes ont une petite chaudière et un gros sifflet. Elles peuvent se repentir et pleurer abondamment, mais cela leur est tout à fait inutile. Ce n'est que lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ qu'elle se détourne de quelque chose. En venant à Jésus-Christ, elle se détourne de ses péchés. Si une personne est incapable de se détourner de son péché, c'est qu'elle ne s'est pas tournée vers Jésus-Christ. Je suis certain que lorsque les Thessaloniciens se sont détournés de leurs idoles, ils ont pleuré parce qu'ils ont gaspillé beaucoup de temps auprès des idoles pour les vénérer. Après qu'ils se sont tournés vers Dieu, ils se sont véritablement repentis des années gaspillées dans l'idolâtrie. Ils se sont premièrement convertis à Dieu et ensuite ils se sont rendus compte qu'ils devaient abandonner les idoles. Présentons Christ aux pécheurs et enseignons la repentance aux chrétiens. J'aimerais souligner le fait que nous devons présenter Jésus-Christ le Sauveur aux pécheurs, mais que la repentance doit être enseignée aux chrétiens dans les églises. Lisez les messages aux sept églises dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus leur dit de se repentir. Aujourd'hui, il semble que les chrétiens demandent à tous ceux hors de l'Église de se repentir. La Bible enseigne que ce sont les personnes dans les églises qui doivent se repentir. Nous devons nous prosterner devant Dieu et nous repentir. Ce n'est pas le message que nous devons livrer à la population générale. Les gens ont besoin de savoir que le Seigneur Jésus est le Sauveur. Dieu veut que nous le servions par amour. Pour servir, le Dieu vivant est vrai. Les chrétiens de Thessalonique servaient maintenant Dieu. Cela était leur travail de l'amour. Il est impossible de servir le Seigneur Jésus à moins que nous l'aimions. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. Qu'en est-il si vous n'aimez pas Dieu? Alors ces commandements ne sont pas pour vous. Vous désirez prêcher l'Évangile, mais vous n'aimez pas Dieu. Alors, trouvez-vous une autre vocation. Dieu a ordonné de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier et de faire des disciples, mais il a donné cet ordre à ceux qui l'aiment. Si vous n'aimez pas Dieu, ne le servez pas. Au chapitre 21 de l'Évangile selon Jean, nous voyons que Jésus-Christ a demandé à Pierre de faire paître ses brebis, c'est-à-dire de veiller sur les croyants. Notez qu'il n'a pas demandé à Pierre pourquoi il l'avait renié trois fois. Il ne lui a même pas reproché. Il n'a pas dit à Pierre, « Pierre, si tu promets de ne plus me renier, je vais te permettre de prêcher le jour de la Pentecôte. » Jésus n'a jamais parlé de la sorte. Il a simplement demandé à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Je pense que si Pierre avait répondu non, Jésus lui aurait dit qu'il était inutile d'essayer de le servir et qu'il devrait plutôt retourner à ses filets de pêche. Est-ce que cela vous semble être des paroles dures? Ce n'est pas moi, mais Jésus qui a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour attendre des cieux son Fils. Cela ne veut pas dire s'asseoir et ne rien faire. Attendre Jésus-Christ, c'est être occupé. Si vous l'aimez, vous allez le servir. Lorsque vous l'attendez, vous vous rendez utile pour l'avancement de son royaume. La fermeté de l'espérance, c'est se tenir occupé. C'est travailler pour l'avancement du royaume en attendant Jésus-Christ. Celui qui n'a pas d'espoir se décourage et baisse les bras. Celui qui a de l'espoir est encouragé à faire un effort supplémentaire. Celui qui a de l'espérance persévère dans le service et la propagation de l'Évangile. Le fait que le Seigneur Jésus viendra chercher son Église n'est pas une excuse pour notre oisiveté. C'est plutôt un encouragement à le servir avec zèle. Viens, Seigneur Jésus. Citation d'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Lorsque vous attendez de la visite importante ou quelqu'un que vous aimez bien, ne vous préparez-vous pas à recevoir vos invités? Si vous attendez le retour de Jésus-Christ, vous ne serez pas oisif. Mes amis, pour quelles raisons fréquentez-vous l'Église et êtes-vous actifs dans votre communauté chrétienne? Certains le sont parce qu'ils aiment être les premiers. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Troisième lettre de Jean, verset 9. Cet homme refusait de recevoir Jean, le disciple que Jésus aimait, dans l'Église dont il était le pasteur. D'autres agissent pour un gain sordide. L'apôtre Pierre a dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. Un pasteur n'est pas là pour dominer sur le troupeau du Seigneur, ni s'enrichir à ses dépens. Si vous servez pour ces motifs, alors c'est un jugement qui vous attend. Dieu veut que nous le servions par amour pour lui. Il veut que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous fassions du bien les uns aux autres. Que nous servions comme pasteur, comme enseignant ou dans tout autre rôle, notre motivation première doit être l'amour de Dieu. Une dame servait depuis plusieurs années dans la pouponnière de son église. Des chrétiens ont pensé que cela lui ferait du bien si elle pouvait écouter les études bibliques pendant un certain temps. Lorsque ce fut le temps de la distribution des tâches, ils lui ont confié une nouvelle tâche autre que la pouponnière. Cette dame a été très aigrie de la décision. Voyez-vous, elle servait pour elle, pour se valoriser, et non pour le Seigneur. Une autre fois, un groupe de musiciens voulait exercer un ministère dans leur église. Cependant, les musiciens ne voulaient que jouer leur propre style de musique. Ils refusaient carrément de jouer un autre genre de musique. Encore une fois, ces personnes servaient leurs intérêts personnels. Ils voulaient se faire un nom, et non vraiment servir les chrétiens de l'assemblée. Ils n'étaient pas disposés à choisir un style de musique approprié à l'événement ou à l'activité. Dieu désire que nous le servions de bon cœur, donc par amour. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Citation de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Citation d'Éphésiens, chapitre 6, verset 6. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Le seul moyen de servir Dieu, sans que ce soit une contrainte ou un fardeau, c'est que nous l'aimions. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Citation de 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission. En lisant 1 Thessaloniciens, cette fois, chapitre 2, les versets 1 à 7. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Tu as mentionné aujourd'hui que la première Bible que les gens vont lire, c'est notre manière de vivre. Eh bien, ça me rappelle l'histoire d'un homme. Je crois qu'il était pasteur. Il a dit qu'un jour, il y a des gens qui discutaient entre eux au sujet des différentes Bibles qui sont disponibles sur le marché. L'un d'eux disait qu'il préférait la version Colombe, un autre préférait la version Louis II, et un autre trouvait que la Bible Scofield était plus instructive à cause de ses références. Et finalement, L'un d'entre eux a dit, « Personnellement, je trouve que la version de ma mère est de beaucoup la meilleure. » Et il s'est expliqué, disant que depuis qu'il était petit, il examinait les allées et venues de sa mère, une femme de Dieu, qui prenait plaisir à mettre en pratique la Bible, la parole de Dieu. La manière de vivre de sa mère était le meilleur enseignement qu'il avait reçu depuis sa tendre enfance. Sa Bible préférée. Mes amis, c'est bien vrai ce que Régent nous a partagé aujourd'hui. Il a dit que les chrétiens qui fonctionnent selon les principes bibliques parce qu'ils aiment Dieu sont de réels modèles pour nous. Personnellement, je connais des chrétiens qui ont plein de connaissances dans la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas ce qu'ils ont appris. Par contre, j'en connais d'autres qui lisent la Bible régulièrement dans le but de mieux connaître Dieu, dans le but de savoir ce qu'il attend d'eux afin de le mettre en pratique dans leur vie. Ils marchent dans l'amour, ils sont généreux pour l'œuvre de Dieu, ils annoncent la bonne nouvelle du salut à tous ceux qui veulent bien les écouter, et ils font tout pour s'éloigner du péché et faire ce que Dieu approuve. On pourrait dire qu'ils sont des Bibles vivantes. Et toi, mon ami, connais-tu de telles personnes? En es-tu une toi-même? Sinon, tu peux le devenir. Il faut d'abord que tu deviennes un enfant de Dieu. Et pour le devenir, tu n'as qu'à pratiquer ce verset que je mentionne très souvent au cours de nos émissions. Tu peux le trouver dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 12 et 13, où il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon ami, il y a un certain nombre d'années, tu es né. Tu étais probablement désiré par tes parents, et tu as grandi. Et tout comme moi, malheureusement, eh bien, tu es un pécheur, une pécheresse. Tu fais peut-être beaucoup de bien autour de toi, tu mènes peut-être une vie exemplaire, mais néanmoins, tu es un pécheur. Paul nous dit dans le troisième chapitre de son épître aux Romains, au verset 23 et 24, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon ami, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. C'est pour moi aussi, bien sûr. Il l'a fait pour nous sauver des flammes éternelles qu'on mérite tous pour nos péchés. Mon ami, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Imagine-toi pouvoir passer l'éternité dans la présence de Dieu. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.